à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Salut.
Et de Dwayne.
Salut tout le monde.
Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend.
Alerte enlèvement, Morgraine a disparu. Donc si vous retrouvez le petit Morgraine, merci de nous le signaler, parce que là ça fait un petit moment qu'on n'a plus de nouvelles, donc on commence à s'inquiéter, donc je pense que la rédaction se joindra à moi pour dire « Morgraine, reviens, Morgraine !»
Oh, quand même.
Voilà. Donc c'est parti pour le sommaire de l'actualité. Nous vous parlerons cette semaine de Crawl, un projet indépendant de roguelike, c'est ça, mon cher Dwayne ?
Un peu, on est plus dans du brawler compétitif en multi.
D'accord. On a aussi Janelli, l'un des projets secrets qu'il y avait chez Arkedo avant que le studio ferme. Chaque fou dont on ne comprend pas tout ce qu'il fait là, mais vous ne rêvez pas, nous ne sommes pas dans les années 90, hein. Ce n'est pas une blague. Nous évoquerons aussi Planet's Cube, en espèce de Minecraft-like à mi-chemin avec Starbound aussi. Et enfin, un petit mode, enfin un petit, ça s'appelle Skywind. Skywind, donc, qui est tout simplement le projet de refaire Morrowind avec le moteur de Skyrim, n'est-ce pas ?
Rien que ça.
Ça fait toujours plaisir, ouais. Il se refuse rien. Du côté des news en général, nous évoquerons Homeworld HD, Disney Interactive qui vire 700 employés, Batman Arkham Knight. Je crois qu'il y a eu des débats passionnants à la rédaction, notamment sur la Batmobile, mais on verra ça tout à l'heure. Twitch qui ouvre un partenariat avec l'E3. Une date pour Watch Dogs. Attention, enfin, est-ce que Ubisoft va le reporter ? On ne sait pas, suspense. Et surtout, la nouvelle middle class du jeu vidéo. Attention, ça c'est un titre que Dwayne nous a mis là. Middle class, ça fait bien. On pouvait pas dire classe moyenne, tu vois, ça faisait trop français. Donc
middle class. Ça plus fait de American, swag, tu vois. Plus de swag.
Ah non, arrête avec ce mot-là, swag, s'il te plaît.
Sans oublier notre jeu du moment, un jeu que ATH attendait beaucoup.
Castlevania Lord of Shadow 2, bien évidemment.
Et voilà. C'est parti. Dwayne, Crawl, qu'est-ce que c'est ?
C'est un jeu du studio Power Oof. Donc un studio...
Bien. C'est des Français ?
Donc c'est non, c'est un studio australien. Donc le concept, c'est un peu, bah ça fait un peu penser à Evolve, donc le jeu des créateurs de Left 4 Dead, sauf que là on est vraiment dans du pixel art. Donc il y a une personne qui sera contre trois autres personnes, tout simplement. Donc il y a un, on va dire chevalier, qui lui a son épée, donc va pouvoir attaquer les fantômes, les monstres différents qu'il attaque, et les autres joueurs vont donc jouer à la fois des monstres mais aussi pouvoir placer des pièges, et donc dès qu'une personne arrive à tuer le chevalier, elle devient à son tour le chevalier. Donc le but c'est d'atteindre le maximum d'XP pour à la fin voir qui a gagné, sachant que les boss aussi, donc c'est vraiment uniquement en multi, et donc on va pouvoir s'affronter entre potes à jusqu'à 4 joueurs. Voilà.
Alors,
le concept un peu.
Que pourquoi je disais que c'était un roguelike tout à l'heure, parce que en fait les donjons sont générés aléatoirement
effectivement. Donc c'est généré aléatoirement pour vraiment tous les donjons, donc c'est aussi super intéressant à ce niveau-là, et ça pourra renouveler, je pense, quand même l'intérêt.
Bah, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que en fait, à chaque pièce, tu as une surprise, quoi. Que ce soit du côté donc du chevalier, enfin du joueur qui est contre les autres, ou des autres joueurs qui vont découvrir tous les pièges avec lesquels ils vont pouvoir s'amuser, qui vont voir ah tiens là je vais avoir cet ennemi là que je vais pouvoir contrôler. Moi je trouve le concept intéressant. Après le jeu a un petit souci, c'est que il n'est pour l'instant jouable qu'en local, et je crois que pour le moment en tout cas, ce n'est pas prévu qu'il y a multi.
Ouais, voilà, c'est-à-dire que les développeurs effectivement ont été interrogés sur cette question-là et ils disent qu'ils prévoient, hein, je pense que qu'ils y pensent. Après la chose c'est qu'ils ont dit qu'ils promettaient rien en fait, qu'ils y pensent, qu'ils vont voir s'ils arrivent à l'implémenter, mais pour l'instant ils ne promettent pas un multijoueur en ligne en fait. Donc c'est ce qui est gênant sur ce type de jeu. C'est-à-dire que ça peut fonctionner sur un jeu console, mais sur PC, c'est un peu plus compliqué. Enfin, à notre avis, en tout cas, c'est un peu plus compliqué de jouer en multi-local sur un PC, quoi.
Il n'y a pas que ça, en plus. Et finalement, quand tu vois les jeux comme ça, ça se prête très bien en multi, mais pas sur la même plateforme, parce que c'est mieux que les gens soient séparés, par exemple, à distance, parce que avec le net, ça permet que chacun a son écran et que l'autre voit pas ce qu'il fait. Parce que là, tu as dit que s'il pouvait poser des pièges et tout ça, bah, quand tu joues en multi sur la même télé, le même écran,
oui,
etc.
Oui, après, on est sur un seul écran. C'est-à-dire qu'on n'a pas, même quand on joue en multi local, on est sur un seul écran. C'est-à-dire qu'on n'a pas du multi-screen, en fait.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire c'est vraiment une seule pièce où on va poser les pièges, attaquer le...
Mais du coup, il voit ce que tu fais, non? Quand
oui,
tu poses des pièges.
Tout à fait.
Ok.
Ouais.
Tu poses une question intéressante parce que...
Merci.
Comment faire pour que la personne qui contrôle le chevalier n'ait pas un avantage absolument monstrueux par rapport aux autres? Parce que c'est vrai que si tu peux prévoir ce que vont faire les autres joueurs en voyant quel piège ils sélectionnent, etc., c'est un peu embêtant, quand même. Et justement, ATH a pas tort, je trouve, c'est le fait que les gens soient à distance, ça permet justement de masquer certaines choses. Et du coup, ça rend le jeu beaucoup plus, enfin,
ouais,
beaucoup plus de surprises, quoi.
Effectivement. Donc après avoir, hein, franchement, j'espère vraiment qu'ils implémentent le multi, parce que là, vraiment, c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup. Sauf que si on est en multi local, ben là, ça perd tout intérêt pour moi. En tout cas, le green light est monté très vite. Il y a un gros buzz sur le jeu, donc espérons que ces bonnes nouvelles leur permettent d'implémenter le multi en ligne.
Bref, vous aurez compris, à Game Info, on n'a pas d'amis.
le jingle.
On parle maintenant de Janelli. Alors, Janelli, pour faire simple, vous prenez Pac-Man, vous rajoutez une petite fille, vous mettez un environnement, un espèce de jardin, tu vois, en décor. Et puis, comme capacité spéciale, vous avez...
Vas-y.
Donc, vous avez une petite fille qui, pour paralyser les monstres, leur pisse dessus. Et le but du jeu, en fait, c'est de retrouver... dans le niveau une espèce de plante, sachant qu'en fait qu'il y a des espèces de racines qui sont éparpillées un peu partout sur la carte, et ces racines, quand vous pissez dessus, elles libèrent soit des cadeaux que vous allez pouvoir choper qui vont vous donner des points, soit elles libèrent une espèce de monstre plante que vous allez pouvoir choper et qui va vous permettre de bouffer un peu comme dans Pac-Man à la fin. Quand vous allez bouffer tous les monstres, voilà, vous sélectionnez la plante, et avec la plante, vous allez bouffer tous les monstres qui sont dans le niveau, quoi. Enfin, disons que vous avez un chronomètre qui se met en place, et que avant la fin de ce chronomètre, il faut que vous bouffiez le maximum de monstres possible, sachant que la logique voudrait que vous les bouffiez tous, quoi.
Toi, tu as joué combien de temps à peu près déjà ?
Oh, j'ai joué 2 heures, quoi. Enfin, ouais. C'est honnêtement, bah voilà, c'est du Pac-Man, quoi. Enfin, c'est un jeu qui a l'image du studio, en fait. C'est-à-dire que la tradition, on va dire, chez Arkedo, c'est de reprendre des bons vieux concepts qui ont fait leur preuve, tu vois, et de leur ajouter une petite touche de folie, tu vois. C'est un studio qui prend des vieux concepts, qui s'est les revisité, et ce jeu, c'est exactement ça.
Mais la vraie question, c'est, est-ce qu'il y a un scénario dedans?
T'es sérieux, là?
Non, bien sûr que non.
En tout cas, déjà, visuellement, moi, c'est vrai qu'il y a, il y a un certain impact visuel qui est intéressant. Le concept, de toute façon, moi, lorsque tu me sors des concepts comme ça, moi, je suis tout de suite, acheteur, quoi. Donc c'est un concept vraiment un peu, vraiment barré. Et donc après, moi, je vais le tester, tout à l'heure. En tout cas, le concept est vraiment intéressant. Visuellement, je suis assez friand du concept. Donc moi, je dis pourquoi pas. En plus, c'est gratuit, hein. Vous pouvez déjà tester, le jeu en allant sur le site. Donc moi, je dis que du positif pour ce Janelli. Hein.
Sachant que je précise, hein, ce n'est pas un jeu qui est facile. Et c'est un jeu qui est très, très addictif parce que là, je vous ai présenté le concept comme ça, mais il y a plein de subtilités dans le gameplay. Hein. Mmh. Par exemple, il faut savoir qu'il y a un bouton pour sauter et pisse en même temps. Et en fait, quand elle pisse sur certaines plantes, tu vois, ça fait pousser une espèce de haie, en fait, qui bloque les monstres. Mais le problème, c'est que ça te bloque toi aussi. Donc s'il y a des monstres qui arrivent en face, tu vois, ça peut te bloquer, alors que tu cherchais à fuir. Bref, il y a un jeu comme ça, tu sais, de cache-cache qui est très intéressant. Et c'est vraiment un Pac-Man revisité, mais très intéressant, avec de vraies nouveautés dedans, quoi. C'est pas juste Pac-Man avec une nouvelle skin, quoi. Il y a vraiment des idées de gameplay innovantes. Ils sont très très intéressantes.
Ouais, mais dommage que tout à l'heure quand t'as dit une petite fille qui pisse sur des rats, moi je pensais que t'allais dire des racistes. Mais après quand t'as dit des racines, ça, voilà, mon intérêt pour le jeu, on va dire qu'il a un peu diminué. Mais
quoi?
Bah quoi?
D'accord, je m'absorbe tout commentaire, mais cela ne nous regarde pas.
Mais finalement, c'est vrai que voilà.
Non, mais ATH, tes préférences, voilà, on va pas les discuter ici. Hein, mais...
Bah, quitte à choisir à pisser sur des racines ou à pisser sur des racistes, je préfère pisser sur des racistes. Mais sinon, à part ça, le jeu, c'est voilà, ça a l'air marrant, mais je pense pas y jouer sur la longueur.
Oh, détrompe-toi. Justement, je pense que c'est exactement le contraire. Tout le monde dit ouais, Candy Crush. Je pense pas que je vais y jouer sur la longueur. Tu parles, les mecs, ça fait des mois qu'ils sont dessus, tu vois. Enfin. Moi, je pense que justement, tu vois, c'est le jeu que tu vas faire dans le métro comme ça, une petite partie vite fait. C'est très très addictif. Il tient quelque chose en tout cas. Et parce qu'il faut savoir qu'en fait, ça c'est un des projets secrets entre guillemets qu'il y avait lorsqu'ils ont annoncé la fin du studio. En fait, ils disaient qu'ils avaient deux jeux, je crois, sur lesquels ils bossaient encore, et puis c'était terminé. Ouais. Et ça, c'est un de ces deux jeux-là, en fait. Et vraiment. Là, en fait, faut savoir ce qu'ils cherchent à faire aussi, c'est peut-être trouver un éditeur, tu vois, pour rajouter des tableaux de score, comparer ses scores en ligne, ce genre de choses. Franchement, je pense que s'ils arrivent à le sortir, le jeu, il va marcher, mais un truc de fou, quoi. Parce que c'est très, très addictif et c'est idéal pour jouer sur mobile. Franchement, c'est top. Bref, on passe à la suite. Et là, on passe à un projet. Alors, ATH, je me tourne vers toi. Est-ce que tu es un fan de Shaq Fu? Est-ce que tu es un fan de Shaquille O'Neal?
Ni l'un ni l'autre, mais...
Est-ce que tu as été marqué dans les années 90 par ce fabuleux projet?
Marqué, mais pas dans le bon sens du terme, si tu peux me permettre. Quoi. Le jeu, il a été un peu trop survendu à l'époque, dans les magazines ou bien tu vois dans les publicités à la télé. Il te montrait que ça avait l'air génial, mais quand il jouait... Je me rappelle d'un jeu très imprécis et que surtout bah le personnage de Shaq Fu était, enfin Shaquille O'Neal dans le jeu était assez naze quoi par rapport aux autres mecs qui te mettaient des rousses parce qu'eux ils avaient des super pouvoirs et toi en final t'avais coup de poing coup de pied et tu te faisais démonter la gueule.
Ouais, donc en gros t'es comme tout le monde quoi. Non, parce que voilà, là on va dire que on a vu ça cette semaine, je pense que tout le monde s'est demandé mais pourquoi. Dwayne, tu attends cette chose, peut-être, je ne sais pas.
Ah oui, moi, je suis un grand fan de Shaq Fu. Non, franchement.
On l'a retrouvé. Il est vraiment là, le fan.
Il est là.
C'est vraiment ridicule, effectivement, au début. En plus, enfin, là, ils ont mis, donc, le projet sur Indiegogo. Et il y a une des vidéos où t'as Shaquille O'Neal qui est en train de parler pendant une minute. Donc, il dit, oui, on sait que le premier, c'était vraiment de la merde. Sauf que là, on revient. Et j'ai des développeurs qui sont super bons, donc on va faire un truc de ouf. et tu te dis, oh là là, merde, quoi. C'est, même quand tu vois le gameplay ou la première vidéo avec les développeurs qui parlent, mais t'as juste envie de dire, ben voilà, pourquoi, quoi. Quel est l'intérêt de la chose? Et ça a l'air de plus ou moins bien fonctionner, vu que là, Indiegogo, c'est du financement flexible et qu'ils sont déjà à $57,000. Donc, sachant qu'ils demandent $450,000. Et il y a pas mal de petits trucs un peu bizarres avec ce concept. C'est que, par exemple, à $6,500, vous êtes engagé en tant que designer sur le jeu.
Alors, juste, attention, une précision par rapport à Indiegogo. Tu es sûr que c'est du financement flexible, hein, parce que sur Indiegogo, en fait, tu as l'option de choisir entre du financement flexible et du financement à la Kickstarter.
Oui, non, mais ce projet-là, c'est financement flexible, c'est-à-dire qu'ils recevront les fonds, même si l'objectif est pas atteint, quoi.
Ah, mais c'est chaud, là, parce que, je veux dire, déjà, je suis pas sûr que parmi toutes les personnes qui ont investi, elles sont conscientes de ça, parce que les gens sont tellement habitués à Kickstarter que...
Ouais, c'est ce qui est embêtant avec Indiegogo, c'est-à-dire que, pas mal de projets ont du financement flexible, mais tu fais pas vraiment... vraiment attention, donc c'est un peu piège, effectivement.
Et surtout que là, moi, je pense qu'il va pas les atteindre, hein, ces $450,000. Hein.
Ah non, non, pas les... Là, je pense que c'est... Il y a eu un petit coup, parce que c'est Shaquille O'Neal, je pense qu'il y a des fans qui ont donné « Oh, un jeu de Shaquille O'Neal, c'est bien, on y va !» Puis voilà.
Pourquoi il a pas financé lui-même son jeu, s'il voulait se faire un kiff de se revoir sa gueule dans un jeu, quoi? 450 000 euros, il peut les claquer comme ça, hein. Le mec, il est multimillionnaire.
Au final, t'as envie de dire pourquoi pas, vu que...
Bah ouais, c'est pas, si lui, il a envie de se faire un petit kiff et il y a 2-3 pèlerins qui attendent le jeu dans le monde, voilà, quoi. Enfin, c'est tant
non,
mieux.
Non, mais je parle du crowdfunding. Au final, vu que là, il arrive à ramasser quand même $60,000 à peu près, pourquoi pas?
Ouais, mais bon, il reste encore pas mal par rapport à l'objectif initial. Ouais. Après, est-ce qu'il attendra toute la somme qu'il a demandé? Je suis pas sûr. Et en plus de ça, comme tu disais dans la vidéo que t'as vu que tu nous as montré de gameplay, tout ça, ça avait l'air pas mal quand même en termes de direction artistique, de pomper Street Fighter 4, hein. On va reprendre ce qui marche et on va le mettre dans le jeu, quoi.
Moi, ce qui me gêne de plus en plus sur le financement participatif, c'est qu'on trouve de plus en plus de projets, en fait, où tu sens que les gens ont les moyens de financer le projet, mais en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait ce truc là où il y a des connards qui sont prêts à payer pour t'aider à faire le projet, puis voilà, enfin, ouais. Ils investissent pas leurs propres deniers dedans, quoi. Enfin, moi, ça me gêne, quoi. C'est comme Richard Garriott, le mec, il est multimillionnaire, il a moyen de monter sa propre boîte. Non, il vient demander du financement participatif.
Mais après, si les gens sont bêtes pour donner.
Et il y en a effectivement pas mal sur Indiegogo, parce que tu sens que les mecs, ils se disent, ils vont faire leur truc, ils ont la thune, mais bon, si on peut ramasser un peu de blé au passage, pourquoi pas. Et t'as des chaînes, par exemple YouTube, j'ai vu qu'il y a les youtubeurs de Smosh ou Toby, celui qui présentait un moment le 3 du B, là, je crois que c'était en 2012, et tu te dis, c'est vraiment là pour faire un peu de thunes, sachant que qu'à côté, par exemple, pour citer Smosh, c'est des mecs, enfin, ils font vraiment un max de blé sur YouTube, ils sont déjà millionnaires, hein.
J'ai l'impression qu'on joue avec l'argent des gens, en fait. C'est-à-dire que on est dans une espèce de stratégie de com, où on se dit finalement que l'objectif, ce n'est plus de réunir des fonds pour aider à financer un jeu, c'est de se créer une communauté pour ensuite faire monter le buzz, tu vois, jusqu'à la sortie du jeu. C'est un peu ce qu'on avait vu la dernière fois sur l'article qui critiquait les soldes Steam, etc. Où le mec, se préparait un super business plan pour son jeu. Ben, moi, ça me gêne. Enfin, je veux dire, le crowdfunding, c'est tellement risqué pour les contributeurs, déjà à la base, que... Pour moi, enfin, la seule raison pouvant justifier qu'on prenne de tels risques, à mon sens, financièrement, c'est d'aider à la création d'un projet. Le crowdfunding n'est pas là pour faire de la promotion publicitaire, quoi. Enfin, moi, ça me pose un sérieux souci, quoi.
C'est clair, hein. Et pour revenir effectivement au projet dont je parlais, c'est vraiment des projets comme ça, où ils font juste du crowdfunding comme ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pensé à un jeu vraiment en se disant « je vais faire un super jeu ». Ils se sont juste dit, ah, je vais faire un jeu en rapport avec ma chaîne pour pouvoir faire de la publicité en plus. Donc là, par exemple, il y a celui de Toby, il a rapporté 600 000 dollars, quoi, alors qu'il en demandait à peu près 300 000 pour vraiment un jeu plus que moyen au final. C'est un peu la jungle et il faut vraiment faire le tri entre les projets sérieux et d'autres qui sont là juste pour parce qu'ils savent que qu'avec l'image ils peuvent faire un peu d'argent, on va dire.
De toute façon, pour revenir à chaque fou, j'ai envie de dire qui s'en fout.
Bah apparemment pas mal de monde vu qu'il rapporte quand même l'Indiegogo rapporte quand même des sous, quoi.
À part des fans nostalgiques de cette époque-là qui avaient aimé chaque fou, je vois pas qui trop s'adresse le jeu, quoi.
Et ça me gêne d'autant plus, tu veux, que en ce moment sur Kickstarter, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est de plus en plus difficile pour certains projets de se faire remarquer, tu vois. Par exemple là, on va parler de Planescape, qui est à mi-chemin entre Minecraft et Starbound, en gros. C'est Starbound en 3D, quoi, grosso modo, avec des donjons en plus, quoi. Et le jeu, mais personne n'en a parlé, quoi. Et pour le coup, tu vois, moi, quand je vois ça, ça me fait un peu rager, parce que le jeu, il montre le moteur qui tourne, etc. Il y a vraiment du concret qui est montré. Et à côté de ça, t'as des espèces de merde qui sont basées sur un business plan, tu vois, pour faire connaître le jeu, etc. Tout le temps qu'on passe à parler justement de ces projets qu'ils ont là pour faire le buzz, on ne le passe pas à parler des projets qui ont vraiment besoin de financement, quoi. Et ça me pose un vrai souci, quoi.
Mais de toute façon, ce problème-là, on l'avait même remarqué déjà au tout début de Kickstarter, quand on disait qu'il y avait les gros, tels que Ron Gilbert, etc., qui, eux, parce qu'ils avaient un CV derrière eux, ils avaient déjà une carte, bah, les gens, forcément, ils allaient plus leur faire confiance. En même temps, c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu, tu fais plus confiance à quelqu'un qui a déjà fait du bon travail que à quelqu'un qui, tu ne sais rien de lui. Et il y avait des projets, beaucoup de projets intéressants qu'on a vu passer sur Kickstarter et dont on a parlé pendant ces podcasts. Et finalement, qui n'ont jamais vu le jour parce que, voilà, les mecs, ils débarquent de nulle part. Même s'ils montraient le moteur de jeu, ce que tu veux, hein, ils montraient des artworks, en veux-tu, en voilà, pas mal de choses, du gameplay, tout, etc. Mais ça n'a pas vu le jeu parce que les mecs, ils étaient pas assez connus. Et ça, c'est un truc que, j'ai envie de dire, ça va pas changer aujourd'hui, quoi.
Là, quand même, il y a une différence fondamentale, tu vois. Par exemple, les mecs qui ont des gros CV, déjà, ils avaient pas forcément les moyens financiers de faire les jeux en question. Mais en plus, ça faisait pas partie d'une stratégie de communication. Je sais pas si je suis clair, mais y a quand même une différence entre vouloir faire un gros jeu et chercher des financements pour le faire et faire de la communication sur un jeu. C'est ça vraiment qui me pose un problème. Moi, que un mec monopolise l'attention parce que son projet est génial et machin, qu'il a vraiment besoin de cet argent, ok. Qu'il soit gros ou petit, je m'en fous. Mais par contre, qu'il fasse ça juste pour faire parler du jeu en amont et qu'il en a pas vraiment besoin en réalité, là, ça me pose un souci, quoi.
C'est sûr que voilà, c'est rageant. Chaque fou, là, quasiment tout le monde l'a pris parce que voilà, c'était marrant, c'est chaque fou de ça, et que ça fasse partie d'un plan de communication ou pas. Eux, finalement, en fait, la pub, elle est déjà faite. Et comme t'as dit, après, ils parlent pas de certains jeux qu'on peut trouver sur Kickstarter qui ont l'air plus sympas.
Qui ne connaîtrait pas Skywind, tout simplement, c'est Morrowind avec le moteur de Skyrim. C'est une bande de gros tarés qui ont décidé que, oh bah tiens, on va refaire Morrowind, on va implémenter les quêtes de Morrowind, et puis voilà. Si comme moi, vous avez passé des heures et des heures et des heures sur Morrowind. Hein. Je rappelle, moi, Morrowind, c'est à peu près 2000 heures de jeu, hein, comme ça, à la louche.
genre MMO, quoi.
Franchement, j'ai eu un espèce de frisson, tu vois, quand j'ai vu ce trailer. Mais parce que ce que je trouve intéressant dans ce projet, c'est que, certes, ils reproduisent la carte de Morrowind, mais il y a un vrai travail de graphique derrière. Enfin, je veux dire, par exemple, je revois certains lieux. Effectivement, tu reconnais le paysage, etc. Mais d'un autre côté, ils ont amélioré le truc, tu vois. Ils ont retravaillé le relief pour qu'il soit plus cohérent avec l'ensemble. Vraiment, il y a un taf qui est assez monstrueux. D'autant plus que, je veux dire, la plupart des armures de Morrowind, enfin, des assets qui sont nécessaires pour faire un Morrowind ne sont pas disponibles. Même en prenant l'extension... qui est sorti pour Skyrim, où il y a, tu sais, ça se passe à Sostheim, qui est une île qui reprend certains designs de Morrowind. Même s'ils reprennent un certain nombre de choses, il y a plein d'éléments qu'il faut recréer from scratch, quoi, on va dire. Et c'est un taf qui est juste, c'est titanesque. Et le pire dans tout ça, c'est que quand tu regardes le travail original qui est fait sur le jeu, mais c'est du travail quasi professionnel, quoi. C'est vraiment du super beau taf. La modélisation des personnages, des armures, etc. C'est super bien fait, quoi.
Ah bah, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment un boulot de malade. On se demande qu'est-ce que les gars font, est-ce qu'ils bossent. Enfin, c'est vrai que c'est un boulot de fou. Les environnements sont vraiment... superbe, surtout quand on se dit que c'est un mode qui est dispo gratuitement, quoi. Donc t'as presque envie de leur dire où est-ce qu'il faut payer, quoi.
D'autant plus que Morrowind ne fonctionne pas comme Skyrim. Il y a plein d'éléments en termes de gameplay, juste comme ça, par exemple le fait qu'il n'y ait pas de GPS dans Morrowind. Juste ça. Enfin, il y a vraiment un travail qui va devoir être fait au niveau du code. Au niveau de la musique aussi, j'ai remarqué que par exemple pour le trailer, ils avaient repris le thème d'Elder Scrolls à la sauce Morrowind, mais ils ont rajouté en plus leur petite touche à eux qui est vraiment... Enfin voilà, il y a du travail, quoi. Et moi je voulais saluer ça, parce que c'est clair que dès qu'il sort ce truc, je sens que je vais y passer des heures, quoi.
Bah sache-le que si t'as pas envie d'attendre que ça arrive sur Skyrim, bah tu peux déjà le faire avec le mode Morrowblivion. C'est la même équipe qui l'avait fait déjà à l'époque sur Oblivion. Si tu veux pas attendre jusque là, bah voilà, tu peux toujours te faire un petit kiff. Si t'as toujours gardé ton jeu de Oblivion, parce que je sais que t'as pas aimé celui-là.
Faudra que je cherche, mais il doit être enfoui quelque part dans les cartons. Enfin bref. Allez, on passe à l'actualité en général. J'évoque vite fait Homeworld HD. Alors Homeworld HD, pour ceux qui ne connaissent pas Homeworld, c'est tout simplement un jeu de stratégie en temps réel dans l'espace avec des vaisseaux spatiaux qui est absolument mythique, ne serait-ce que pour sa bande son qui a marqué toute une génération de joueurs. C'est l'un des rares jeux de stratégie en temps réel dont je peux dire qu'il a une vraie ambiance, où on se croyait vraiment dans l'espace. Enfin bref, c'était absolument succulent comme jeu. Donc on a eu des nouvelles de l'édition HD, parce que je rappelle donc le jeu, enfin la licence Homeworld faisait partie des éléments éparpillés à droite et à gauche au moment de la mort de THQ, n'est-ce pas, et que c'est Gearbox qui a racheté cette licence là. Donc apparemment, ce sera pas juste genre un petit lissage, tu vois, ce genre de choses. Le jeu va être entièrement remasterisé avec un vrai moteur d'aujourd'hui. Donc ça, c'est une vraie bonne nouvelle, même si je souligne quand même que pour les plus jeunes d'entre nous, Homeworld n'a pas tellement vieilli que ça. C'est un jeu même qui a étonnamment bien vieilli, je trouve. Et je vous incite à, si vous ne l'avez pas fait, à le faire maintenant, ou au pire, bon écoutez, si vous vraiment vous pouvez pas vous passer des graphismes modernes, eh bien attendez cette version remasterisée, parce que voilà, c'est un jeu qui le vaut bien, quoi. Alors juste petit reproche, par contre apparemment il y a pas, enfin ils n'ont pas évoqué la version standalone de Cataclysm, qui était en gros une extension pour le premier Homeworld. On ne sait pas si elle fera partie du package. Ça serait dommage de pas la mettre, parce que vraiment elle apportait vraiment quelque chose par rapport au jeu original. Et je ne comprendrais pas pourquoi ils le mettraient pas alors qu'ils font Homeward 1 et 2. Pourquoi pas la version standalone? C'est bizarre. Enfin bref. On passe à la suite et on parle maintenant de Disney Interactive, Dwayne, qui a viré pas mal de personnes, je crois.
Et oui, donc Disney Interactive, hein, donc ceux qui sont à l'origine, par exemple très récemment de Disney Infinity ou un peu avant des derniers Epic Mickey. Donc là, ils ont viré plus de 700 personnes, effectivement, c'est assez énorme. Donc voilà, ils ont, comme on a dit, bossé, enfin fini maintenant Disney Infinity, qui a coûté plus de 100 millions donc pour contrer Skylanders de Activision, qui marchait extrêmement bien. Et donc là, ils ont fait une grosse restructuration, on va dire, du studio, sachant qu'avant ils avaient en plus aussi fermé le studio de Warren Spector, enfin qui avait créé les Epic Mickey justement, donc Junction Point il me semble. Et donc voilà, donc c'est vraiment une assez grosse restructuration. Donc après, je pense que c'est aussi dû au fait qu'ils aient fini Disney Infinity, qui a quand même coûté très cher et où pas mal de monde était employé, mais c'est quand même une nouvelle assez énorme.
J'aime bien le terme restructuration pour un licenciement de 700 personnes. Moi, j'appelle plutôt ça un licenciement de masse. Hein. En plus, ça, je pense pas qu'ils sont en manque d'argent. Hein. Parce que quand tu vois les mecs, ils achètent pour plus de 4 milliards de dollars la licence Star Wars.
Non, mais qu'on soit clair, hein. Disney a décidé de fermer sa branche jeux vidéo.
Oui, mais bon, hein,
ils ont fermé LucasArts. Voilà, ils ont fermé, ça fait partie. Ils ne veulent plus s'occuper de jeux vidéo chez Disney. Ça sera délégué à Electronic Arts, ça machin, un truc. Ça sera des contrats, quoi.
Oui, voilà, bon. Là, ils vont vraiment se concentrer sur le mobile et ils virent vraiment tous ceux de la branche jeux vidéo pour pouvoir se consacrer à leurs autres occupations, hein, tout simplement, qui rapportent plus, on va dire.
Ouais, mais voilà, c'est vraiment dommage, surtout quand ils avaient un studio comme LucasArts, hein, qui a disparu.
Ouais, enfin. Avec tout le respect que j'ai pour LucasArts, ça faisait quand même un sacré paquet d'années qu'ils ne faisaient plus rien. Hein.
Oui, mais bon, ils auraient pu, voilà, ressortir un petit. Maintenant, avec les moyens d'aujourd'hui, les gens dématérialisés, tout ça, ils peuvent très bien te sortir un petit jeu comme ça, un petit point and click sympa. Même si ça attend pas, c'est pas un million de sellers, ça peut toujours bien se vendre.
Ouais, non, mais ce que je veux dire à TH, c'est que tu parles de point and click là. Ouais, mais sauf que Ron Gilbert et Tim Schafer, ils ont leur studio, tu vois. Enfin, je veux dire, le LucasArts dont on parle là. Ce n'est plus le LucasArts de la grande époque, hein. Ça n'a strictement rien à voir. Enfin, voilà, c'est un nom.
Ouais, mais bon, voilà.
C'est dommage, effectivement, qu'ils aient viré des gens, comme ça, mais je veux dire, LucasArts, ce n'était plus qu'une coquille vide, hein. Ça fait très très longtemps que LucasArts, enfin voilà, n'existait plus en termes de production ludique intéressante, quoi, on va dire.
Bah, ce qu'ils ont fait, le dernier jeu, les derniers Star Wars, le pouvoir de la force, c'est eux qui l'ont fait, non?
Je suis pas sûr, tu vois.
Enfin bref, tout ça pour dire que dans cette industrie, c'est que voilà, les gens c'est comme des mouchoirs. Une fois utilisés, bah ils les jettent. Après la fin d'un gros développement de jeu, les gens sont toujours remis en interne dans d'autres. Ils vont dans d'autres studios, mais ils sont toujours dans la même branche pour aller développer un autre jeu qui est en cours de développement, etc. Mais là, c'est carrément mis à la porte, quoi.
D'ailleurs, Dwayne, à propos de gens mis à la porte, je crois qu'on a eu d'autres nouvelles cette semaine.
Oui, effectivement, il y a eu aussi Eidos Montréal. Donc là, c'est une trentaine de personnes qui a été remerciée aussi suite à la fin de Thief, qui devait développer un autre jeu juste après Thief. Et donc, on n'a pas eu de nouvelles à savoir si ça faisait partie du plan ou si, à cause des mauvaises notes, ils se sont dit « bon, on va... virer ces personnes et peut-être réembaucher après s'il y a un autre projet. » D'ailleurs, on a pas mal de nouvelles comme ça, hein. C'est-à-dire qu'on a eu effectivement Irrational, donc ça c'est un autre problème, c'est vraiment par rapport au fait que Ken Levan voulait se concentrer sur autre chose. Il y a eu aussi Santa Monica qui a viré pas mal de monde, donc Santa Monica, le studio de Sony à l'origine des God of War, qui a viré une cinquantaine de personnes. Là, on a maintenant Eidos Montréal, donc ça fait quand même pas mal sur les dernières semaines de licenciements dans le jeu vidéo.
Par contre, on me fera pas croire un truc sur Eidos Montréal, c'est que même si, admettons, c'était prévu de réduire la voilure parce que sur le prochain projet, je veux dire, quand t'es en phase de pré-production, c'est normal que t'aies moins de monde sur le projet. Hein, je veux dire, c'est une logique implacable. Hein, mais justement, ça, tu peux le prévoir normalement. Alors, est-ce que c'était dans le contrat? Mais une boîte comme Square Enix qui a X Studio, on va pas me faire croire qu'il n'y a pas moyen de prévoir de relocaliser les salariés sur tel projet, etc. Alors que un studio genre Brian Fargo avec Westland 2 et Planescape Torment, ce qui est prévu, c'est que justement ils ont commencé la phase de pré-production de Planescape Torment là, enfin la suite spirituelle de Planescape Torment, hein, c'est Torment Tides of Numenera, je crois, le titre. Et en fait, ce qu'il a dit, c'est très simple, c'est que il y a le rôle équipe qui bosse sur Westland 2, la phase de pré-production a débuté sur Torment Tides of Numenera, et au moment où Westland 2 sera terminé, tout le monde va switcher sur Tides of Numenera. Parce qu'à ce moment-là, justement, il y aura besoin de manœuvres pour accélérer la cadence, quoi. Alors, on va pas me faire croire qu'un petit studio arrive à faire ça et qu'un gros ne peut pas traiter ses salariés décemment.
C'est ça, le capitalisme.
Ouais, c'est clair.
On va parler maintenant de Batman Arkham Knight. Alors, moi, je vous avoue, je n'ai pas vu le trailer parce que, bon, je suis pas spécialement demandeur. D'autant plus de ce que j'ai compris... tous les commentaires de ce que j'ai vu parlaient de la Batmobile, donc il devait pas y avoir grand chose d'autre apparemment.
En fait, bah c'est un trailer en CGI, mais c'est pas ça le plus important. Déjà, ce qui est important, c'est que Batman Arkham Knight a été annoncé par Rocksteady. Il sortira donc en octobre 2014 a priori. C'est leur objectif. Et suite à ça, il y a eu des informations aussi qui ont été révélées par le magazine Game Informer. Ça se passe un an après les événements de Arkham City. D'ailleurs, ça c'est intéressant de noter que Rocksteady occulte l'épisode Origin dans la trilogie. Il n'est pas considéré comme faisant partie du jeu, car je le rappelle, il a été développé par Warner Bros. Montréal. Donc, Batman, voilà, il a un peu sécurisé la ville de Gotham et la criminalité a presque disparu. Sauf que, non, il fallait bien faire un jeu, donc si rien ne se passe, ça va pas être très très jouissif à jouer. Donc l'épouvantail décide de revenir et de terroriser la ville, ce qui fait que les habitants ont fui. Donc ça fera, j'ai peur que ça fasse un petit peu le syndrome vide des anciens Batman, enfin surtout de City et d'Origin, où il y avait pas un chat dehors, à part des vilains et des méchants quoi, pour te casser ta gueule. Ça se passe donc à ce moment-là. Au casting, on a pu apercevoir dans le trailer le Pingouin, Double Face, Harley Quinn, et on a entendu l'épouvantail qui menaçait à peu près toute la population. La Batmobile est enfin jouable pour sillonner les rues de Gotham et apparemment on pourra tirer des sortes de missiles pour étourdir les ennemis, ce qui a été dit. Un nouveau personnage devrait apparaître en ville qui est apparemment créé pour le jeu, selon
Jeff Jones d'ailleurs.
Ouais, par contre on sait sur quoi ça sort cette histoire hein.
Sur Next Gen uniquement.
PC, PS4 et Xbox One.
Ah, donc ça veut dire qu'on va enfin avoir un vrai jeu next gen, pas un truc
voilà,
qui sort sur 360
c'est pas
et
du cross-platform.
Ça sera le dernier jeu de Rocksteady concernant la licence Batman. Enfin, ils ont pas envie de continuer à faire que du Batman. Concernant le casting, c'est toujours Kevin Conroy qui va doubler Batman. Pour la version française, on pense notamment que ça sera exactement la même que les anciens, parce qu'il devrait apparemment il devrait pas avoir trop de changements à ce niveau-là. Et donc le jeu est même affiché à la date du 14 octobre pour la version PC. Voilà, okay. Concernant le nouveau Batman. Et on n'a pas vu de vidéo de gameplay à proprement parler, si ce n'est du CGI, donc je pourrais pas vous dire si le jeu est beau ou pas.
Ouais, donc c'est pour ça, j'ai bien compris, c'est pour ça qu'il y avait plein de débats sur la Batmobile au lieu de parler du jeu.
Non, la Batmobile, c'était que...
Non, mais c'est bon, ATH, on va pas parler du jeu.
La Batmobile, c'est que dans Arkham Asylum...
Parce que
Arkham
je vous explique, pendant 3 heures, il y a eu un débat avec Dwayne, là, donc...
Bon, pendant 3 heures, on en a parlé même pas 2 minutes, le mec, il est pas un petit peu... il exagère pas un petit peu...
Extrapolation totale.
Ouais. La Batmobile a changé de forme, voilà. Et je l'aime pas. Je préférais l'ancienne.
Allez, on en débattra.
Ils ont
après,
débattu
allez.
Pour se dire qu'ils aimaient pas la Batmobile.
Ouais, elle fait très Batmobile de Nolan et je préférais l'ancienne qui avait notamment dans Arkham Asylum qui était plus belle.
Ok. Bon. Twitch partenariat de l'E3. Alors, Dwayne, pourquoi as-tu tenu à nous parler de cette news cette semaine?
C'est-à-dire qu'en fait, l'E3 a fait un partenariat avec Twitch sur 3 ans. Twitch va vraiment pouvoir streamer à la fois les conférences et avoir entre les conférences justement des interviews, des directs. Enfin, on va vraiment avoir un contenu a priori de qualité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est mieux que Ustream, parce que Twitch effectivement a quand même une grande place dans l'e-gaming, enfin dans l'e-sport, enfin en général, d'un point de vue personnel et de ce que j'entends, on est quand même sur une plateforme de qualité en matière de stream et pour tout ce qui est serveur et de gérer la masse en fait, contrairement à d'autres comme Ustream. Donc c'est une nouvelle qui m'intéresse, c'est-à-dire que j'ai moi, je suivais en général le 3 sur Game Trailers, qui faisait aussi des plateaux, des interviews. Le problème, c'est qu'on avait 50% de pub et 50% d'interviews. Donc, à voir ce que va faire Twitch sur le coup. Donc c'est quand même intéressant.
Juste une question par rapport à nos amis console. On sait que Twitch a débarqué sur PS4 et Xbox One.
Oui. Non, pas encore Xbox One.
Ah ouais, non, mais ça va venir.
Ouais.
Est-ce que c'est prévu que ça soit retransmis aussi sur console?
Ah oui, totalement. C'est-à-dire que c'est même, je pense, l'intérêt principal. C'est-à-dire que ce sera, vu que Twitch sera dispo aussi sur les consoles, c'est d'avoir pas mal de monde qui vont suivre aussi sur leur télé directement le 3 de manière simple en fait.
Parce que là pour l'instant toutes les vidéos qui sont sur Twitch et sur PS4, c'est des vidéos des gens qui jouent en live ou bien des gameplays qui ont été enregistrés de jeux, mais tu peux pas aller voir d'autres choses en fait. Et ça serait bête qu'ils passent à côté de l'événement qui est le 3 pour ne pas avoir ce genre de proposition en fait à proposer aux joueurs.
Maintenant, nous allons évoquer le divin enfant, n'est-ce pas?
Oh, tu t'avances un petit peu vite.
Le divin enfant. Non, je déconne. Donc, Watch Dogs a enfin une date de sortie. Enfin, pour le moment. Parce que, vous savez, hein, c'est Ubisoft, hein. Des fois, ils annoncent des dates de sortie, puis en fait, non. Et puis, en fait, oui. Mais puis, en fait, non. Et puis, en fait, oui. Enfin, bref. Donc, normalement.
Si tout va bien. Avec des grosses pincettes. Il pense voilà. À épiler.
Peut-être.
Peut-être que Watch Dogs sortirait le 27 mai. Voilà. Donc, on va croiser les doigts, parce que moi, je vous avoue que là, déjà, les derniers trailers, ils sont pas super excitants, quoi. Enfin, on va dire qu'il y a eu un gros downgrade technique, quoi. On voit que c'est censé pouvoir tourner sur PS3 et 360, hein. Enfin, moi, je pense que c'est à cause de ça, hein. Après, si ça se trouve, le jeu sera vraiment moche, mais... et aussi, bon, je veux dire... Trop d'attente, tu l'attends, quoi. Enfin, on a trop attendu, le buzz autour du jeu, il est retombé comme un soufflet.
La hype est franchement retombée. C'est un peu.
Bah, c'est sûr que, avant que tu parlais de Watch Dogs, tu t'attendais normalement à une sortie fin novembre, c'était, les gamers étaient là, ouais, vas-y, Watch Dogs, et là, ouais, Watch Dogs va sortir fin de semaine. Ouais, bof, qu'est-ce que j'en ai à foutre?
Parce que je me rappelle, lorsqu'on regardait ensemble, la conférence de Sony au début, bah, c'était début d'année dernière, en février, lorsque le trailer était arrivé, j'étais là, oh, c'est mortel. Et puis là, le trailer arrive, je fais,
ouais, bon,
ah, ouais, cool.
Ouais, je verrai bien quand il sortira, quoi.
Voilà, c'est bien, je vais suivre, mais j'ai plus la hype et puis je suis plus aussi enthousiaste que l'année dernière.
Non, mais surtout, en plus, regardez les trailers, quoi. Je veux dire, on te sort une espèce d'histoire bateau de vengeance, là, que t'as vu 36 milliards de fois. surtout que il y aurait un peu de charisme qui se dégage du truc, je veux dire, c'est pas Red Dead, quoi. Paye ton protagoniste principal, quoi. Je veux dire, qui change tout de suite l'acteur, hein, parce que ça va pas être possible.
Voilà,
ils n'iront pas juste 6 ans les trailers, hein.
Non, quand même. Ah non, l'acteur, je le trouve pas si mauvais que ça.
Oh là là.
T'as regardé en VO ou en VF?
C'était la VO.
En VO, parce que, je sais pas, la VF, c'est pas pareil, en fait. Parce que la nouvelle qui est sortie, c'est ils ont mis les voix en française pour la France, en fait. Et je sais pas si tu parles de celle-là ou bien de l'autre, parce que...
Ah non, moi je... C'est en VO. Moi je... Tout l'actualité, je la suis sur les sites anglophones, donc moi je parle de la VO, attention.
D'accord, parce que je m'appelle plus trop de la voix en VO, mais même en VF ça avait pas l'air terrible terrible. Par exemple, il y avait un personnage qui avait la voix de Sullivan dans Uncharted, mais le problème c'est que la voix elle collait pas au personnage, que c'est ça qui m'a choqué. Et puis bref, il y a des voix un peu clichés comme le Rasta là, qui est une voix de Black, super clichéton en fait, je trouve. Et
Ah, ils lui ont donné une voix en mode oh ouais, man, je vais te tuer.
Non, pas comme ça, mais tu sais, c'est genre les voix. C'est une voix un peu enfin je pourrais pas vous la faire comme ça, mais c'est une voix assez particulière que tu sens que ils ont, c'est un petit peu surjoué je pense à mon avis.
Ouais, et ouais. Merci d'épargner nos auditeurs, DH, hein. Je te remercie beaucoup. Bah alors ouais. Non.
Ne vous inquiétez pas, à la fin, il y aura, je vous ferai un live.
Il fera un happening, comme ça.
Voilà.
Ah oui, c'est vrai, j'oubliais les imitations de DH.
Mais sinon, ouais, mais on va parler du jeu ou bien on va parler de mes.
Ouais, vas-y.
Bah, c'est pour dire que, apparemment aussi, la presse a été le voir, et en France, c'était jeuxvideo.com qui a eu l'exclusivité. Et ça avait l'air très bien. Et dans le reste du monde aussi, ça avait l'air très bien. Donc voilà.
Bah, en même temps, je sais pas pour vous, mais moi je me méfie quand il y a des exclus comme ça qui sont lancés. je veux pas remettre en cause l'indépendance de jeuxvideo.com. Hein,
non,
mais je veux
non,
dire,
non, nous le ferons pas.
Comment dire ? Forcément, quand c'est des trucs fermés comme ça, on te donne des exclus. On va dire que. Maintenant, on a tendance à se méfier, quoi. Tout simplement. Voilà, parce que, en plus, on sait pas dans quelles conditions ça a été fait, dans quelles conditions ils ont pu toucher au jeu, etc. Ça peut influencer, tu vois.
Ouais, enfin, bah, ils ont été chez Ubisoft et ils leur ont montré le jeu, quoi. Je crois qu'ils ont même pas joué, en fait. Enfin, si, ils ont joué un petit peu. Et ça avait l'air assez intéressant sur la plupart des sites, tous les sites qui ont eu l'exclusivité dans leur pays, en fait. Ils avaient l'air super intéressants, mais bon, comme t'as dit.
Après, on est mal placé pour critiquer. Hein, je veux dire, on fait une preview de Castlevania Lord of Shadow 2 avec Mordrain qui trouvait que ça avait l'air plutôt chouette, et on verra que tout à l'heure, c'est pas tout à fait le cas. Donc, on est mal placé pour donner des leçons. Bon, vous avez quelque chose à ajouter, peut-être ?
Qui s'en fout ?
Non, Voilà. Par contre, je l'avais vu moi à la Paris Games Week, ça avait l'air pas mal, mais bon, là le soufflet est un peu retombé, donc on attend.
Ah, tu fais partie des mecs qui ont fait la queue juste pour voir le jeu ?
Je fais la queue 15 minutes hein, je crois, puisque je suis arrivé vraiment
le
matin.
Ah bah t'as eu la chance hein, parce que moi j'étais arrivé, c'était 3 heures.
Non mais c'est moi j'avais été vraiment très tôt. C'était sur PC.
Et il était joli ou pas ?
Oui, ça tournait bien. Après, franchement,
je veux
là,
dire,
on
il
va...
était pas aussi moche que sur les trailers, quoi.
Non, franchement, là, ouais, les trailers, il y a vraiment un downgrade assez flagrant, surtout quand on compare avec le CGI à côté des persos et tout. Ça fait un peu bizarre. Donc, franchement, à voir là, le soufflet est vraiment retombé. Donc, je vais attendre de voir ce que ça donne et puis sans trop d'excitation.
Bah, on va dire que finalement Ubisoft a rendu service aux joueurs, hein, parce que comme ça on jugera vraiment le jeu pour ce qu'il est et pas sur la hype, quoi.
C'est pas faux.
C'est bien. Donc maintenant, pour terminer cette semaine d'actualité, la middle class du jeu vidéo. Quoi qu'est-ce ?
C'est en fait un article effectivement de Gamasutra qui m'a donné envie qu'on s'interroge en fait sur une espèce de résurgence des jeux un peu moyens, on va dire, entre guillemets, même si on va écarter les jeux double A, quoi. Voilà, on pourrait appeler ça comme ça, des jeux double A. Donc, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, avec le départ de Ken Levine, les gens comme Cliff Bleszinski qui sortent du modèle triple A pour faire leur jeu à côté, toute la veine un peu crowdfunding avec Obsidian ou Double Fine qui font leur jeu à côté. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on a en fait tous ces jeux qui ne sont pas des jeux indés à proprement parler et qui à côté ne sont pas non plus des triple A, qui là sont plus tournés entre guillemets vers les gamers pour en fait développer une expérience vraiment on va dire de niche, même si on est sur quand même une niche assez large. Donc on a des exemples, voilà, comme je l'ai dit, Cliff Bleszinski ou autre, donc avec tout ce qui est crowdfunding. Donc déjà, est-ce que de votre côté vous êtes d'accord avec ce terme de classe moyenne du jeu vidéo lorsqu'on parle de ce type de choses?
Un triple A aujourd'hui, c'est quoi? C'est 100 millions de dollars?
De 40 millions après jusqu'à
en moyenne,
infini, quoi.
Ouais, on est entre...
Donc voilà, les petits projets indés, on va dire, c'est 100 000 dollars, on va dire. Et encore, je vois la fourchette haute, hein. parce que techniquement c'est beaucoup moins tard, hein. Quand tu vois les tout petits projets indés, c'est pas du tout ça quoi. Mais on va dire 100 000 $ parce que je suis sympa. Alors bon, là c'est une discussion de chiffres, hein, mais c'est juste pour resituer, ouais, je veux dire, 3 000 000 $, c'est peanuts. C'est vraiment peanuts en termes de développement. Les gens, pour, c'est sûr que nous, comme ça, on a l'air de dire, de trouver que c'est beaucoup parce que on n'est pas dans le business. Mais quand tu mets bout à bout le salaire de développeurs compétents et pour peu que t'aies une équipe un peu conséquente, 3 000 000 $, ça part vite. Hein. En plus, il faut payer les moteurs, etc. Enfin bref, moi, je suis pas sûr qu'on puisse parler. En tout cas, de projet double app, ça me paraît un peu exagéré, quoi. Alors, parler de projet un peu ambitieux avec des budgets modestes, ok, mais parler de projet avec des budgets moyens, ouais, je suis
toi,
pas convaincu, là.
Toi, tu vois plutôt ça, dans, on va dire, dans la fourchette haute des jeux indépendants, tout simplement. Tu le mettrais
pas. Même pas forcément indépendant, parce que je pense que les éditeurs, d'ailleurs, Cat Living, il est pas indépendant, hein. Il bosse toujours avec,
c'est Touquet, je crois. Oui, voilà, avec Touquet, effectivement.
Donc, c'est la fourchette haute, on va dire, des projets, modestes, quoi. Enfin, ouais. C'est vraiment pas des budgets conséquents, quoi. C'est des tout petits budgets, quoi. Moi, je trouve ça bien, après, mais je pense pas qu'on puisse parler de réémergence de jeux comme, par exemple, comment il s'appelait ce jeu de chez THQ, là, qui était un espèce à mi-chemin entre Zelda et le beat'em all, là.
Darksiders
Zelda.
Ouais, Darksiders.
Ah, oui,
ça,
okay.
Tu vois, c'est un projet double A. Ça,
ouais,
c'est un projet double A.
Je vois.
Et je pense pas qu'il y ait aucun projet dans tous ceux qu'on va parler, là, qui soit comparable à ça, quoi.
Bah, ça dépend après de, par exemple, tu parles de Ken Levine, chez, THQ, enfin, Touquet, excuse-moi, tu sais pas combien le jeu finit, parce que là, pour l'instant, on a aucune information, ni pour Killleaf, Blizinski, tout ça, tu sais pas combien d'argent ils vont avoir pour faire leur jeu. Ça se trouve.
Oui, mais je sais combien ils sont 15. Et avec 15, à moins de se payer l'Unreal Engine, je vois pas comment ils vont dépenser plus de 10 millions de dollars, tu vois. Enfin,
bah, ça se trouve qu'ils, ouais, voilà, tu sais que...
Je crois pas du tout, ouais.
Des fois, regarde, il y a des projets indépendants qui demandent quand même une certaine somme. Et au final, quand ils arrivent avec cette somme-là, bah, ils se rendent compte que, par exemple, Ron Gilbert, ils se rendent compte qu'il pourra jamais faire le jeu qu'il voulait avec Broken Edge. Avec la somme qu'il avait demandé.
Tim Schafer.
Tim Schafer. À chaque fois, je les confonds. Mais enfin, bref, tu vois que là, ça se trouve, Kevin Levine, il va avoir. Tu sais pas la somme qu'ils vont leur donner. Ça se trouve, ils vont avoir un très gros budget, comme un budget assez restreint. Et tant qu'on n'aura pas le jeu, là, je pourrais pas vraiment parler de nouvelle classe, de middle class, quoi.
Ouais. Dans tous les cas, moi, je vois plutôt ça comme effectivement des. Enfin, on pourrait voir ça comme des jeux indépendants. Avec tout de même une aura un peu, c'est-à-dire des personnalités connues, donc une plus grande aura en termes marketing, on va dire, et une ambition qui reste tout de même assez assez restreinte, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du triple A qui veut plaire à tout le monde et qui donc au final ne plaît à personne, on va dire, pour parler.
Tu exagères là.
Non, c'est façon de parler. Après, moi, j'adore, par exemple, les Gears of War. Hein. C'est vraiment. En fait, dans les AAA, on est vraiment dans une optique. Oui, qu'est-ce qu'on va faire pour plaire. Tandis que avec ce type de projet, on est plutôt dans l'optique donc soit remettre à jour des projets que personne n'avait développé dans les années dernières, ou sinon faire vraiment quelque chose de plus personnel et de plus poussé, on va dire, quelque chose qui va plaire à une niche aussi grande soit-elle, mais on n'est pas dans l'optique de vraiment plaire à tout le monde, en fait.
En gros, comme il y a moins d'argent, moins de pression, donc le formatage il sera beaucoup moins. C'est comme tu vois les jeux. Les gros triple A qui sortent, bah, ils se ressemblent quand même beaucoup, par exemple, voilà, Gear of War a démocratisé, en tout cas, le fait que tout le monde peut se cacher derrière les trucs, et bah, dans tous les triple A, maintenant, tu les as, quoi. Enfin, dans tous les TPS, dans Uncharted, t'as la même chose, etc. Tu peux sortir tous les TPS quasiment, où tu peux couvrir derrière un élément du décor. Les gros éditeurs, ils se disent, qu'est-ce qui marche? Bah, on va faire ça. Ils essayent de plaire à tout le monde. Donc, des types de jeux qui étaient avant très spécialisés dans un domaine. Bah maintenant ils essayent de, par exemple les jeux d'infiltration, on voit que maintenant ils sont quand même beaucoup tournés dans vers un côté un peu action de la chose, alors qu'avant
infiltration.
Infiltration.
Oui, infiltration.
Ah oui, d'accord. Non, je croyais que enfin bref. Tu m'as coupé dans mon élan et je vois, en tout cas, j'ai compris ce que tu voulais dire.
Moi, je voulais juste ajouter une chose. Tu disais tout à l'heure à TH qu'on sait pas combien ils allaient avoir, mais enfin si, on le sait, parce que Ked Levine, par exemple, pour prendre son exemple à lui. Pourquoi il a arrêté? C'est parce que justement il y avait des équipes trop grosses. D'ailleurs, c'est mentionné dans l'article de Dwayne, c'est que pourquoi les créateurs entre guillemets reviennent à des équipes plus réduites, parce que justement ils peuvent moins s'impliquer sur les projets. Et voilà. Donc, je veux dire, quand tu as une équipe réduite comme ça, que l'auteur, enfin le développeur, le chef de projet derrière le jeu a l'intention de rester à cette taille-là, t'as pas besoin d'un budget immense pour faire un jeu, quoi.
Ouais. Par exemple, lorsque Ken Levan était en train de, on va dire, de boucler un peu le jeu, qu'il aurait pu organiser son temps pour réfléchir à des choses sur le jeu en lui-même, t'as des marketeurs à côté qui viennent lui dire « c'est pas bien d'avoir une fille devant la boîte, tu vois, il vaudrait mieux mettre un mec avec un gun. » Enfin voilà, t'as pas mal de choses comme ça dans un triple A qui viennent un peu pourrir ton espace créatif et pour parler de choses qui n'ont pas forcément d'intérêt pour le jeu en lui-même, tout simplement.
Par contre, je pense que ce qui est certain, c'est que on a un espèce de retour des créatifs qui se rendent compte qu'avec la technologie d'aujourd'hui, on peut faire des choses très bien avec pas beaucoup de moyens. C'est ce que je disais pour le remake de Final Fantasy VII. Et moi, ce que je trouverais très bien, par ailleurs, ça serait que ces créatifs-là influencent les éditeurs pour que, enfin, les éditeurs se sortent les doigts du cul et qu'ils prennent des risques sur des petits projets. Et d'ailleurs, on a un exemple que je trouve très bien. Et Dieu sait que, par ailleurs, j'ai tendance à dire du mal de cette boîte. Et là, tout le monde sait de qui je parle. Ubisoft. Parce que Ubisoft, quoi qu'on pense de cette boîte, ils vont sortir Soldat Inconnu, ils vont sortir Child of Light, ils ont sorti Rayman... Il profite justement de la techno développée par Michel Ancel, là, tu sais, son espèce de moteur en 2D qui permet de produire des jeux en 2D assez facilement.
UbiArt Framework.
Voilà. Ubisoft prend des initiatives à ce niveau-là et je ne m'explique toujours pas pourquoi Ubisoft est à peu près le seul éditeur qui fait ça. Je ne comprends pas. Ça me dépasse, mais alors complètement. Les éditeurs qui passent leur temps à se plaindre du fait que les jeux coûtent trop cher, etc., je ne comprends toujours pas pourquoi ils ne prennent pas l'initiative de sortir des jeux plus modestes et qui, ça se trouve, vont toucher le jackpot dessus. Regardez, par exemple, le Banished dont on a parlé la semaine dernière. Il est toujours dans le top des ventes de Steam. Il est toujours dans le top des ventes de Steam. Et on a vu, par exemple, je me rappelle des soldes de Steam où un jeu en alpha était premier du top, alors qu'il était vendu plein pot. Donc ça veut dire qu'il y a moyen, tu vois, avec des projets modestes en termes techniques, en termes de financement, d'avoir des jeux qu'ils en vendent en masse. Et je ne comprends pas les éditeurs qui sont toujours là à rechigner en disant que les jeux coûtent trop cher, donc on va tous vous passer en démat pour que vous la mettez bien profond, quoi. Et pourquoi, je ne comprends toujours pas pourquoi ces éditeurs-là, ces mêmes éditeurs qui se plaignent du coût des jeux, ne décident pas, comme ça se passe au cinéma, de produire par ailleurs des jeux un peu plus modeste, quoi. Bah,
c'est
je comprends pas.
C'est très intéressant ce que tu viens de dire là, parce que c'est une question que je me suis toujours posée, parce que quand je vois que Electronic Arts et Ubisoft, tout ça, ils étaient tous là, ils voulaient, ouais, on en a marre de la génération PlayStation 3, Xbox 360, on veut pousser la next-gen, etc. Mais d'un côté, ils sont tous là à se plaindre, ouais, le jeu, ça commence à devenir trop cher. Mais bon, si tu passes à la next-gen, tout ça, donc, tu vas augmenter les équipes de développement, ça va demander encore plus de ressources, donc les jeux vont coûter encore plus cher. Et c'est ces mêmes personnes-là qui viennent se plaindre, par exemple comme Square Enix, ouais mais Tomb Raider s'est vendu qu'à 3,9 millions d'exemplaires, et après il te dit il m'en fallait 6 pour rentabiliser le jeu. Ce qui, voilà, bah, là, sur Next Gen, quand ils vont développer un Tomb Raider spécialement pour la Next Gen, il va coûter combien? Là, il a coûté 100 millions pour celui-là, et l'autre, il va coûter combien? 150 millions. Donc, il leur faudra qu'ils en vendent peut-être 8 millions, etc. Et après, ils vont toujours se venir se plaindre. Et au final, bah, personne va être content. Et si on continue dans cette voie-là, bah, l'industrie soit va mourir, soit ils vont tous passer au dématérialisé avec des petits jeux à petit budget. Mais en tout cas, moi, je trouve ça très intéressant que cette nouvelle émergence des créatifs, parce que là, peut-être, ils vont peut-être plus essayer de se concentrer sur des choses qui faisaient que le jeu vidéo, bah, c'était assez cool, les gens, ils travaillaient dans un domaine, tu voyais que il y avait pas autant de pression qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est vraiment argent, tu vois, tous les DLC à foison. Ils pensent vraiment comme une industrie Afrique.
Après, je vais quand même nuancer ce que tu dis. Développer en indépendant, c'est pas la panacée, hein. Par exemple, le documentaire Indie Game de Movie, tu vois comment les mecs bossent, enfin, je sais pas si tu t'en rappelles, Dwayne, c'est pas la joie, quoi. Hein. C'est du crunch time tout le temps, quoi. Hein. C'est crunch, hein.
La plupart des indés, ils disent qu'ils aiment ça lorsqu'ils y arrivent, mais qu'au début, au final, il y en a certains, enfin pas dans Indie Game de Movie, mais il y en a d'autres quand je lis certaines interviews après que les jeux aient fonctionné, qui disent que si un éditeur leur avait dit oui, ils auraient pas été contre avant, quoi. Mais au final, lorsque ça fonctionne, après ils sont bien contents. Mais au départ, c'est vraiment quelque chose de très difficile, quoi.
En fait, moi, quand je parlais de ça, je parlais plutôt des sociétés de production, comme les Square Enix, Ubisoft, Electronic Arts, etc. Que s'ils ils mettent des petites équipes, donc les mecs, ils vont pas avoir la pression d'avoir le budget, etc. Il fera son jeu quoi qu'il arrive. Et après, en plus, il aura le marketing de telle boîte ou de telle boîte qui sera là pour appuyer, pour faire la promotion auprès des sites de jeux vidéo, etc. Donc là, je pense qu'on pourra avoir des jeux un peu plus cool, et comme à l'époque, en fait, au début de la 3D, il y avait beaucoup d'expérimentation, des jeux qui étaient foirés, hein, il y en avait beaucoup qui étaient foirés, etc. Mais ça serait vraiment cool j'aimais bien quand même cette époque, tu vois, même s'il y avait beaucoup de bouse, et j'aimais bien cette époque, quand il y avait un grand jeu, c'était marquant, quoi.
Enfin, après, il y en a quand même, hein. Par exemple, moi, je continue ma propagande. Par exemple, Dust Unleashed Tales, c'est un jeu qui a été créé effectivement par une personne au départ, mais après Microsoft. Enfin, c'est surtout qu'il a gagné un concours de Microsoft qui a déjà mis un peu d'argent. Ensuite, il a été donc mis en avant par Microsoft et avec une exclue. Il y a aussi le studio Clay Entertainment qui a été au départ en tout cas mis en avant par Microsoft. Il y en a d'autres chez Sony, comme
That Game. Il y avait aussi tu sais l'espèce de Metroidvania là qui avait été produit par ceux qui ont fait Gears of War là, par Gear.
Shadow Complex.
Voilà.
Oui, effectivement.
Un exemple comme ça, tu vois, mais je ne m'explique toujours pas pourquoi. C'est une expérience qui n'a pas été renouvelée. Est-ce qu'il s'est mal vendu?
Non, ça a été un succès. Je me rappelle qu'à un moment, Cliff Bleszinski en parlait.
Ça lui a donné des idées.
Ça avait bien marché, justement. À un moment, justement, Cliff Bleszinski, il en parlait. Il disait qu'il n'avait pas envie, enfin, ça, c'est un peu un truc un peu narcissique, mais qu'il n'avait pas envie qu'en fait, le gun avec la tronçonneuse que vous voyez dans Gears of War soit son héritage, parce qu'il a... Il a contribué à d'autres projets, comme il parlait de Shadow Complex, et qu'il voulait faire plus de projets dans le genre. Ça, il en parlait en 2012. Et donc maintenant, il travaille sur ce type de choses.
Ouais, parce que je veux dire, le mec, il te dit ça maintenant, mais à l'époque, Gears of War, c'était le truc le plus formidable de toute la Terre. Et puis,
c'est sûr.
En même temps, il va après, pas te dire que c'était de la merde.
Il y a le côté, effectivement, business aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il fait sa pub, il prépare un peu... le terrain, ça c'est clair.
Ouais, ce que je veux dire, c'est que il bosse peut-être maintenant sur des projets plus modestes, mais à mon avis, faut pas perdre de vue que le mec, il sait communiquer, quoi. Donc, il sait comment caresser le gamer dans le sens du poil.
Il y a un très bon exemple, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, je pense. C'est Keiji Inafune, quand il travaillait chez Capcom, tous les jeux qu'il faisait chez Capcom, c'était les meilleurs du monde. Et plus tard, quand il a quitté Capcom, il a dit que si il aurait pu couler Capcom, il aurait coulé Capcom. Donc voilà, c'était une de ses citations. Donc
Il a fait des touches, quoi, j'ai envie de dire.
Voilà, c'est ça, exactement.
C'est vraiment surprenant. Bon, d'ailleurs, maintenant on va parler d'un gros jeu, n'est-ce pas? On va passer à notre jeu du moment. Et le jeu du moment, Alors, je me rappelle d'un certain ATH, il y a pas si longtemps, qui disait à...
À Mordraine.
À Mordraine. Non, mais de toute façon, Mordraine, tu peux dire ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Hein, je prendrai, et puis voilà. Bah, voilà, ATH l'a pris.
Oui, bah, c'est normal. Hein,
Ça, c'était à l'époque.
Castlevania Lord of Shadow 2. Donc c'est la suite directe de Mirror of Fate déjà.
Ouais, tout à fait.
Donc on est dans un univers contemporain, pour même plutôt futuriste hein, il me semble même.
Ouais, plutôt contemporain, on va dire, ouais, c'est assez proche de notre époque et
mais il y a des éléments futuristes dedans, je crois aussi.
Ouais, un petit peu de plutôt futuriste, mais c'est contemporain et en même temps c'est ancien parce que t'as deux époques.
Donc cette fois, on va jouer. Alors, désolé, il n'est impossible de parler du 2 sans spoiler le 1. Donc si vous avez pas fini le 1, merci de revenir au prochain podcast parce que là ça va juste pas être possible. Donc nous allons jouer Dracula Vlad Tepes, à savoir donc Gabriel
Belmont.
Voilà. Déjà, je veux te voulais te demander à TH au niveau du scénario, est-ce que l'introduction, enfin, il est souvent reproché, tu vois, à ce Castlevania, que en gros, il s'essuie les pieds sur le background des anciens Castlevania. Bon, je pense que factuellement c'est vrai parce qu'il fait quelque chose de totalement différent. Mais est-ce que au moins cette suite fait quelque chose d'intéressant?
Déjà le fait que la licence est reniée, le côté toute la mythologie de Castlevania qui était fait auparavant. Pour moi personnellement, c'est pas un mal en soi parce que ça leur a permis d'aller dans une autre direction et de faire vraiment leur mythologie sur les épisodes de Lord of Shadow, en fait la saga Lord of Shadow comme ils l'appellent. Le premier Castlevania Lord of Shadow 1, il prenait vraiment son temps pour nous mettre dans l'univers. C'était un jeu avec un petit peu de cinématique, mais bon, on n'est pas dans les du Metal Gear. Hein. Ça expliquait bien son scénario, le background, etc. Comment, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis ça mettait surtout le temps à développer l'histoire et c'était très plaisant à suivre. Et là, bah dans celui-là en fait, t'as l'impression que tout ce qui est niveau scénario, ça a été fait à l'arrache. C'est la grande déception du jeu en fait.
C'est-à-dire
C'est-à-dire en fait, t'as des personnages qui en fait que ils ont pas le temps de développer, qui meurent dans la scène d'après. Il y a une fin qui est totalement bâclée, qui est expédiée en 2 minutes chrono, mais sans mentir hein. N'importe qui a joué au 1 et qui joue au 2 directement, il va se rendre compte déjà qu'au niveau scénaristique c'est beaucoup moins développé que le 1 et ça a pas le temps finalement d'installer son personnage, t'as pas le temps d'avoir l'empathie pour le personnage ni même pour la destinée de Dracula parce que t'en as plus rien à foutre.
Alors que pourtant, je veux dire, il partait quand même sur une base, enfin... voilà, ils ont quand même développé un background assez cohérent dans le premier. De ce que tu dis là, j'ai l'impression que, en fait, ils ont tellement rushé le travail que, du coup, ça cache complètement
ouais,
tout ce qui a été
fait.
C'est la
Alvarez touch, on va dire. C'est celui qui a un peu massacré la licence, apparemment, ce qu'il a fait en interne chez Mercury Steam. En fait, le jeu a été fait vraiment à l'arrache et tu le ressens vraiment quand tu joues, surtout. On va parler du gameplay si vous voulez bien.
Ouais, parce que c'est quand même le plus important, même si le background est foiré, bon, on peut se dire qu'il y a le gameplay qui va rattraper tout ça, hein, ou pas. Parce que je rappelle que Mordraine avait dit que il y avait une phase d'infiltration.
Ouais.
C'est le truc, en gros, il attendait de voir, quoi.
Ouais, bah, en fait,
et toi, tu as vu.
j'ai vu, j'ai subi, surtout. Ouais. Enfin, les fêtes d'infiltration, c'est... Elles sont vraiment pourries,
C'est-à-dire?
Bah, c'est nul, en fait, c'est que, voilà, comme Morden l'a dit à l'époque, c'est exactement la même chose qu'il a pu voir en vidéo. Sauf que, à jouer, c'est totalement inintéressant, déjà, parce que c'est super... Déjà, de 1, c'est super facile. De 2, bah... En fait, Dracula, il doit passer devant des gardes. Et les gardes, c'est en fait, c'est des mecs, c'est des mastodontes. Ils sont armés du, je sais pas, d'un lance-roquette bizarre. Enfin, tu sais, c'est une arme futuriste. Ils tirent dessus et en gros, une fois, ils t'éclatent. Alors que le mec, il peut détruire des dragons, tout ça. Mais bon, un mec avec un lance-roquette, il le défonce. Hein. Va savoir la cohérence du truc. Et
bon, ça, à la limite, on s'en fout. Ouais. Est-ce que c'est intéressant à jouer?
Non, c'est pas intéressant du tout à jouer parce que. On dirait un jeu qui aurait pu être sur PlayStation 2, enfin les phases d'infiltration à ce niveau-là, ça aurait pu être dans un jeu de PlayStation 2 à l'époque.
C'est-à-dire quoi, c'est l'IA qui est pas intéressante,
L'IA qui est totalement nulle. Je sais même pas si on peut parler d'IA dans ce cas-là, mais bon, c'est pas grave.
Par exemple, de comportement d'intelligence artificielle, est-ce que elle t'oublie au bout de 5 minutes?
Non, mais là, faut oublier, il y a pas de 5 minutes. Si elle te voit, elle t'éclate ta gueule, t'as pas le temps de t'enfuir, et en général, elle te voit pas parce que l'IA soit elle est plantée comme un piqué. Soit fait une petite ronde, mais c'est pas vraiment de l'infiltration, quoi, parce que en fait, en gros, c'est juste un passage où tu dois passer en mode furtif, et après, une fois que t'as passé ce passage-là, bah c'est fini, quoi. C'est pas vraiment de l'infiltration. Le seul truc d'infiltration qu'il y a, c'est que tu prends la position d'Ara. Le problème, c'est que pour prendre la position d'Ara, c'est que tu dois aller dans une certaine zone où est-ce qu'il Gabriel il rentre dans les rats, et après il s'enfuit. Avec, tu prends le contrôle du rat.
C'est comme dans Dishonored, quoi, en gros.
Non, mais c'est Dishonored, si tu peux le faire, dès que tu vois des rats, tu peux le faire. Mais là, t'es obligé d'aller à une certaine zone spécifique, en fait.
Ah, d'accord.
Genre, il te dit, à ce point-là, il y a des rats, vas-y, hop, tu prends le contrôle du rat, va manger l'interrupteur là-bas pour le bousiller, comme ça l'électricité, a l'air de fonctionner, tu peux passer dans la petite trappe, tu passes, et même quand t'es sorti de la trappe, et bah, quand tu continues là-bas, t'arrives dans une autre salle, et bah dans l'autre sens, tu peux pas te transformer en Dracula comme t'en as envie. Tu vas au point B, à tel endroit pour que Dracula reprenne sa forme, parce que tu sais pas pourquoi il peut pas reprendre sa forme à ce moment-là, parce que voilà, le jeu il veut pas. Et ça, c'est vraiment pourri.
En gros, contrairement à Dishonored où t'as un espèce de level design organique,
ouais,
où voilà, t'as l'impression, enfin ça vient naturellement, quoi.
Voilà.
Alors que là, de ce que tu dis, apparemment c'est vraiment A, B, C, D, enfin c'est très scripté, quoi, en gros.
C'est très scripté, et c'est surtout, c'est vraiment pas du tout intéressant, mais heureusement, parce que les gens, je crois, ils l'ont beaucoup attaqué sur ce point-là, c'est que le jeu, les phases d'infiltration, t'en as que 3-4 dans le jeu, et ça dure pas plus de 10 minutes. Donc, finalement, tu vois, c'est, voilà, ça.
Sur combien d'heures de jeu, total?
Sur combien d'heures de jeu, une quinzaine d'heures.
Ouais, donc, ouais, c'est anecdotique.
Ouais, et surtout, ça se passe vraiment, vers le début de l'histoire, mais bon. Pour faire gros, en fait, les défauts du jeu, parce que là, je pense qu'on est dans la partie des défauts, c'est qu'il y a beaucoup d'allers-retours, surtout dans des niveaux pas très inspirés au début du jeu, dans des sortes de laboratoires et tout ça. Et
ouais, parce que c'était censé être un open world, je crois, un truc comme ça.
C'est pas vraiment un open world, c'est comme je l'ai dit, c'est.
Ah,
un...
mais je te cite l'argument marketing.
Oui, hein, l'argument marketing. Si... où est-ce que je peux vous savez où est-ce qu'on se les fout, les arguments marketing? C'est un. Je dirais, c'est un jeu linéaire à plusieurs embranchements, en fait. Voilà, tu peux pas faire les missions dans l'ordre que tu veux, déjà. Tu peux pas aller où tu veux parce que t'es obligé d'avoir une certaine capacité pour passer.
Ah, mais c'est un Metroidvania, en fait.
Ouais, c'est une sorte de Metroidvania, mais en plus de ça, d'être une sorte de Metroidvania, c'est un Metroidvania, bah, vraiment mal inspiré sur ce coup-là. Parce que c'est vraiment des sortes de couloirs. Et puis après, là, t'arrives là, il y a une phase de plateforme, une phase d'infiltration, une phase de patati, patata, combat, boss, etc. Et puis, ça se répète au début, comme ça, le rythme, déjà, est mal foutu. Et, franchement, j'y jouais, au début, j'y jouais une heure je faisais des sessions d'une heure et je me faisais chier, quoi. Ça m'arrive très rarement que je me fasse chier sur un jeu. Mais
qu'est-ce qui t'a fait chier? C'est le gameplay qui a été mauvais ou c'était juste que c'était tellement linéaire que ça tu t'es endormi?
Bah c'est peut-être l'espèce de narration pourrie, surtout le début d'histoire, le début du semblant d'histoire, surtout c'est ce qui est rigolo, c'est ça a été créé comme un jeu vidéo, c'est il y a un tel qui va revenir. Il faut que tu récupères tes pouvoirs. Et c'est ça le scénario, quoi. Normalement, ça, c'est un truc que tu débloques, c'est en marge de l'histoire, de la trame principale. Mais là, c'est vraiment la trame principale. La trame principale, c'est, t'es pas assez puissant, il faut que tu récupères tes pouvoirs. Ok, je dois aller récupérer mes pouvoirs. Mais avant de récupérer mes pouvoirs, Il faut que tu t'infiltres là-bas pour voir ce qui se prépare. Ok, bon, j'y vais. Hop, 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 je suis ce chemin-là, j'arrive. Égout, hop, laboratoire. Et après, une fois que t'es arrivé, bah, il fait, ah bah en fait, ouais, t'es allé au laboratoire, mais t'as oublié d'aller chercher cet objet-là. Si t'y retournais. Ok, bah je fais le chemin en sens inverse. Et pendant que tu vas dans le laboratoire, allez, hop, on te ramène dans le passé.
Par une sorte de trop d'aller-retour, quoi.
Ouais, surtout au début, c'est trop d'aller-retour, pas intéressant. Beaucoup de phases de plateforme. Dans Castlevania, c'est pas très intéressant la plateforme. Après, les seuls, vraiment la plus grande partie du jeu, c'est le beat'em all, mais ça, c'est toujours comme dans le premier. C'est exactement le même système.
Il y a eu des évolutions au moins ou pas du tout?
Pas vraiment du tout, à part tu sais les nouveaux pouvoirs qui sont les nouveaux pouvoirs et puis voilà. Et
les nouveaux. Ouais, des trucs à la marche quoi.
Voilà, des trucs à la marche. C'est pas vraiment ça qui. Si t'as joué au 1, t'es habitué au système de combat, mais voilà, il est toujours aussi excellent. Les boss sont toujours. C'est heureusement qu'ils sont là parce que sinon le jeu, je crois, je l'aurais descendu, mais.
Truc de pas. Donc possible. Là, vous l'aurez compris, on arrive à la partie points positifs.
Ouais, les points positifs.
Parce que tu l'as quand même terminé ce jeu, donc je tiens à le préciser aux visiteurs qui pourraient avoir un doute là.
Ouais, j'ai terminé. Bah, quand tu payes un
pourquoi
jeu,
pourquoi tu l'as terminé?
Bah, parce que déjà, je l'ai acheté. Et donc, il faut bien rentabiliser le jeu. Mais honnêtement, si j'aurais été dans une rédaction de jeux vidéo, tout ça, tu vois, j'aurais fait le test à l'arrache, quoi. J'aurais fait genre, ouais, je l'ai terminé, vous inquiétez pas et tout, c'est de la merde, quoi, tu vois. J'aurais fait les 5 premiers niveaux, j'aurais dit, allez hop, 4 sur 10, comme tout le monde, bim.
C'est beau ton professionnalisme, ATH, je suis absolument admiratif.
c'est le genre d'état d'esprit que, dans le jeu, au début, quand j'ai commencé à jouer, dans l'état où ça m'a mis, tu vois, pour te dire à quel point j'avais pas envie de le finir. Si je pense que c'est quelqu'un qui m'aurait prêté un jeu, je l'aurais rendu, tu vois,
Mais il y a bien un truc à un moment donné qui t'a poussé à le continuer, quoi, parce que je veux dire, là,
Ah oui, je t'ai dit, c'est l'investissement
que j'ai mis dedans. Ouais, c'est ce que j'allais dire, là, il y a un truc qui le sauve, quand même.
Parce que, il y a un moment où t'étais censé parler des points positifs, donc, ok, le système de combat, il est bien, en même temps, c'est le même que le premier, donc, t'avais apprécié le premier, normal.
Voilà,
Il y a quoi d'autre qui est bien?
Bah, il y a quoi d'autre qui est bien? Bah, j'ai dit, les combats de boss qui est toujours là.
Ah, mais c'est comme le premier, ça, c'est,
Ouais, mais bon, voilà. c'est toujours épique, etc. Et, ce qui, au bout d'un moment, en fait, ce qui m'a forcé à continuer, c'est qu'au bout d'un moment, bah, vers la moitié du jeu, en gros, bah, la narration a commencé à changer. Et là,
voilà, c'est ce que je voulais t'entendre dire.
la narration a commencé à changer. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il y a des trucs qui sont quand même vite expédiés. Mais il y a des moments qui sont sympas, voilà. Là, il y a des moments qui changent des allers-retours. Déjà, au bout d'un moment, tu fais plus d'allers-retours. Et ce qui change, c'est que bah là, ça commence à devenir intéressant. Là, tu te dis ouais, là, ils ont bossé les mecs. Là, il y a eu quelque chose parce que il y a des sortes des petites phases d'énigmes et tout ça. Ça t'apporte, c'est pas transcendant, mais tu sais, ça fait, je sais pas comment dire, c'est un peu une petite sucrerie qui fait plaisir, quoi.
Ah, parce que c'est ce que tu me disais aussi. Dans le premier, il y avait des énigmes, alors que là, pour le coup, elles sont passées un peu à la trappe dans cet épisode. J'ai l'impression.
Ouais, je crois que à tout péter, il doit en avoir 2-3, alors que dans le premier, il doit en avoir facilement une bonne dizaine, tu vois, de tête, hein, comme ça. Et là, déjà, il y a plus cet aspect-là parce que je sais pas, ils ont dû penser que les gens, ils
arrivent. Les énigmes, c'est naze, allez, hop.
Voilà. Mais alors que moi, j'aimais bien dans le jeu. Il y a plus d'énigmes et le rythme était mal branlé. Et là, le rythme, d'un coup, bah, il accélère et ça commence à devenir un peu épique avant que le soufflet retombe à la fin. Non mais vraiment la fin c'est de la bouse, mais non mais la fin c'est une bouse atomique, vraiment par rapport à la claque du 1, et même d'ailleurs si on aurait dit que le 2 serait sorti comme ça en l'état et qu'il n'aurait jamais eu le 1, ça aurait quand même été une bouse de fin, quoi. C'est-à-dire c'est le truc honnêtement je m'attendais pas à une fin comme ça, quoi, surtout pour conclure une saga. Ok. Enfin, merci, c'est gentil, mais...
Surtout que, en plus, tu me disais tout à l'heure que dans le 1, la fin, il y avait au moins une demi-heure, tu vois. Enfin, c'est allé bien, c'était bien amené. Alors que là, ben, ça vient d'un coup, quoi, j'ai l'impression.
Ouais, là, c'est... Non, mais ça dure 2 minutes, en plus.
Ah, merde, c'est fini.
Ah, oups.
Tu sais, tu vois les crédits, tu fais, ah, bon.
Bah oui, mais... Parce que dans le premier, déjà, quand tu... terminer le combat avec le boss final, bah t'avais t'avais un épilogue d'une dizaine de minutes, etc. Après t'avais les crédits et après t'avais la scène qui te montrait que Dracula. Et là tout le monde disait à l'époque, mais c'est génial ce jeu, ça va être une tuerie, des watch, on a rien à foutre, etc. Là 2 ans on passait sous les ponts.
On a un exemplaire ici. Hein.
Et donc, il y a 2 ans qui sont passés entre les deux. Et entre temps, il y a eu Mirror of Fate. Donc, dont au début du jeu, ils font un petit récapitulatif pour ceux qui n'auraient pas compris l'histoire. Même, c'est pas très dispensable, quoi, d'avoir fait Mirror of Fate. C'est toujours mieux d'avoir fait pour prendre deux, trois petites subtilités. Mais là, quand t'arrives à la fin, l'épilogue, il dure 2 minutes. J'ai regardé les crédits de fin pour voir s'il y avait pas une scène cachée à la fin pour me dire, dis-moi, s'il te plaît, fais-moi un truc, pour me dire que si j'ai pas mis de l'argent dedans pour de la merde. Et j'ai mis de l'argent pour de la merde.
Donc, je résume, en gros, si vous avez aimé les combats du 1 et les combats de boss en particulier, ça pourrait vous intéresser. Par contre, pour le reste,
Non, mais j'ai bien, franchement, j'ai bien aimé, à partir du moment à ceux qui ont joué au jeu.
Ah bah putain, faudrait que tu le dises là parce que je t'assure.
Ouais. Non mais parce que c'est normal.
Ah mais là,
ça
donne pas envie. Même si on me le donne, je dis non mais garde-le. Vas-y.
Non mais franchement, si on te donne, il faut... tu vois, c'est le genre de jeu que tu fais et il faut s'accrocher, mais s'accrocher très très fort pour voir toutes les, pour voir ce qu'il a à offrir. Et après, bah, mais en fait, c'est ça qui est marrant parce que le jeu, c'est ça commence, c'est pourri. Après, ça arrive, ça va, c'est cool tout ça. Et après ça revient, mais c'est pourri quoi. Mais tu vois, genre le mec il dit allez à la fin, et là on fait de la merde quoi.
Et on... C'est une cloche en fait, tu vois. C'est...
Voilà. Mais pour ceux qui ont fait le jeu, j'ai commencé à bien aimer le jeu jusqu'à la scène du théâtre, jusqu'au combat final. Ça va vous dire quelque chose, peut-être que vous serez d'accord avec moi ou pas. Hein. Je suis assez d'accord. Mais en tout cas, c'est juste pour vous dire que le jeu, moi, je le conseille vraiment de prendre d'occasion. Mais en tout cas, toutes les notes qu'il a eu quand même sur internet, surtout dans la presse anglo-saxonne, c'est pas justifié d'avoir mis un 4 sur 10 quoi. Ça
4 sur 10. Franchement, vu comment tu en as parlé là, ça vaut 4 sur 10 hein.
Parce que c'est normal, moi j'en ai parlé comme ça parce que je suis un déçu par rapport à la par rapport à surtout au scénario etc qui nous avait vanté des mérites lors de la scène finale du premier. Et là Et là, c'est vraiment une déception parce que voilà, je suis obligé d'en parler comme ça, comme une grosse déception. Mais le jeu, le côté beat'em all, quoi, si tu prends juste pour ce côté-là, à mon avis, ça te fera très largement l'affaire. Si t'accroches aux premières heures, bien sûr.
Bon, c'est un beat'em all sympa, quoi.
Moyen bon. Tu vois, c'est pas moyen
sympa.
Voilà, sympa. Moyen bon. Mais c'est pas genre bon, un bon jeu, c'est moyen bon. C'est un jeu
sympatoche quoi.
Voilà, sympatoche mais si tu fais que le début du jeu, c'est de la merde.
Si tu oublies aussi que, parce qu'apparemment, j'ai compris aussi que à cause des flashbacks, le scénario était assez compliqué à suivre.
Non, il est pas vraiment compliqué à suivre, mais on va dire que tu comprendras le scénario, mais il y a des choses qui sont pas du tout expliquées, notamment pourquoi est-ce qu'il se passe ça, pourquoi est-ce que à tel moment il voit telle ou telle personne. Parce que théoriquement, cette personne-là devait être mort il y a plus de 1000 ans, et il y a des trucs qui sont pas expliqués et que c'est expliqué nulle part. Alors que dans le premier, il prenait vraiment le temps, je t'ai dit, d'expliquer. Et là, il t'explique rien du tout. Mais
bah,
démerde-toi.
C'est pour laisser ton imagination remplir les trous. Hein. C'est une méthode narrative qui marche aussi.
Non, mais attendez, je vais donner un exemple. Ok, on est dans cette situation-là. Il rencontre une personne. Genre, tu le vois 2-3 fois dans le jeu, mais c'est un personnage super... Après, quand tu le rencontres, il dit « Ouais, je suis tel personnage. » Ah, mais révélation, c'est un personnage super important dans la mythologie Castlevania. Et bah, 2 minutes après, c'est comme si le mec, c'était un PNJ, quoi, ce lambda, il crève comme ça. Il est pas développé. La seule chose qui est développée, c'est, voilà, sa fiche de texte dans le dossier que t'as dans le jeu, mais voilà, quoi. Y a plein de trucs comme ça, et au bout d'un moment, genre, c'est « Oh, je suis le grand traître méchant, t'as essayé de me trahir. » Ah bah tiens, je vais venir te casser la gueule, mais tu sais pas comment il est au courant de ça. Enfin bref, c'est mal branlé. Et il faut mieux pas s'attarder là-dessus quoi, sur le scénario de celui-là.
Purée.
Donc ok, amateur de beat'em all, allez-y, les autres oubliez.
Voilà, voilà, jouer mais passer les cinématiques, les castagner le boss de fin et puis renvoyer le jeu.
À prendre de cases. Voilà. Donc on va s'arrêter pour cette semaine. Désolé, pas de point culture. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Ciao.
Salut.